penche la guitare, penche la guitare, penche la guitare.
1, 2,
penche la guitare.
3, 4.
Je dois vous dire que tout ça fait un peu bricoler.
Ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'esthétique, mais la science créatrice et la connaissance technologique.
Les empreintes musicales. Franck Amouroux.
Bonjour Pia.
Bonjour Franck.
C'est la deuxième partie de cette émission consacrée à Pia Moustaki. Lors de notre émission de la semaine passée, nous avons abordé ensemble ses toutes jeunes années parisiennes et l'environnement familial hors norme qui ponctuait votre quotidien. Fille de Georges Moustaki, le métèque, et de Yannick Varek, la bretonne. Pia nous a présenté les relations amicales, voire amoureuses de ses parents. Georges et Yannick se sont séparés alors que vous n'aviez que 9 ans. Vous avez évoqué les premiers noms célèbres du patrimoine de la chanson française qui ont déjà traversé votre vie à cette époque-là. Je parle notamment de Jacques Higelin et de Édith Piaf. Aujourd'hui, nous reprenons le cours de notre entretien pour évoquer vos jeunes années à vous, d'adolescente et de jeune adulte, vos rencontres amoureuses, et nous terminerons cette seconde partie à la naissance de votre fille Gaëlane. Vous quittez le collège, puis vous arrivez au lycée Montaigne. Nous sommes dans les premiers mois de l'année 1968. Votre vie scolaire est déjà quelque peu dissolue. Dans votre ouvrage « Fille de métèque », vous rappelez au lecteur cette annotation de vos bulletins scolaires. « Sèche parfois le café pour aller en cours
ouais. ».
Au lycée Montaigne, dans ces années-là, vous découvrez jeune femme, Pia Moustaki. Il y a des garçons qui vous plaisent bien. Vous partagez la cour de récréation avec l'un d'entre eux, qui deviendra un autre chanteur tout aussi célèbre que votre père. Ce chanteur sera celui qui vous transmettra l'un de vos premiers baisers. Je vous laisse nous le présenter et sa fameuse bande du lycée Montaigne.
Oui, alors vous parlez sûrement, je pense, vous percez à jour, c'est Renaud Séchant, le chanteur. D'ailleurs, quand il m'appelle, il dit « Salut, c'est Renaud, le chanteur ».
Les empreintes musicales.
Et donc, nous sommes restés amis. J'étais le voir à l'île sur la Sorgue il y a un an et demi. Et donc, moi, j'aime beaucoup Renaud et je l'aimais déjà beaucoup. C'est vrai qu'on a été proches et moi, j'étais... un petit peu amoureuse de lui, comme beaucoup de filles du lycée. Il était très très beau, et son frère jumeau aussi, David, qui était très très sympa. Et donc, on a formé une petite bande de copains où on faisait un peu les 400 coups. C'était l'année 68. Du coup, on séchait les cours, on allait jouer de la guitare et chanter dans les caves de Sèvres Babylone notamment, enfin, ou du 14e, parce que lui, il était avenue Paul Appel. Et donc, on traînait un peu chez lui. Chez moi, ma mère était un peu tolérante, donc il venait aussi à la maison. Et un jour, il y a eu une boum à Cachan, effectivement, et il m'a invité à danser, et direct, il m'a embrassé, il m'a roulé une pelle, en fait. Disons les choses comme elles sont, et c'était ma toute première.
Avec la langue.
Avec la langue. French kiss.
La toute première.
Et donc, l'an dernier, quand je l'ai vu aller sur la Sorgue, je lui ai dit, au fait, Bruno.
Renaud.
3-4. Au fait, Renaud, est-ce que tu sais que tu as été mon premier French kiss? Et il m'a dit non, je ne savais pas. Alors j'ai dit, mais écoute, tu le sauras comme ça. Et je n'avais pas encore écrit le livre. Et donc, quand j'ai écrit le livre, je me suis dit, bon, comme je l'ai informé, il ne savait pas, je peux l'écrire, je peux le dire. Et David, ensuite.
Donc, David Séchant, son frère jumeau.
Son faux jumeau. Ils ne se ressemblent pas du tout comme des jumeaux, mais comme des frères. Et donc, je trouvais Renaud un petit peu taciturne et très, très réservé, timide, alors que son frère était complètement le contraire, David. Et donc, après, j'ai eu un petit béguin pour plutôt David. Donc, vous voyez, et puis, c'est vrai qu'avec mes copines, on était un peu les frères Séchant, quoi. On était amoureuses des deux, en fait. C'était bizarre, mais...
Et vous faisiez partie de cette bande-là, alors.
Je faisais partie de cette bande-là. Et d'ailleurs, les frères... étaient un peu rivaux par rapport à leur conquête, et puis parfois c'était bon, bah, il y avait souvent des filles qui ont été avec un puis avec l'autre, donc je n'étais pas une exception du tout.
Je suis une bande de jeunes, à moi tout seul. Je suis une bande de jeunes, je me fends la gueule. I'm a poor lonesome young band, I feel alone. I'm a poor lonesome young band, I break my gueule.
Bien le joli mois de mai, hein, 1968, à ouais. Paris, vous en êtes, Pia Moustaki. Votre père, Georges Moustaki et Jacqueline chantent à la Sorbonne à cette époque-là. Ils sont, eux, un peu plus âgés, hein, jeunes
ouais.
trentenaires.
Ouais.
Et vous dites dans votre livre, hein, Fille de Métèque, que le courant a même du mal à passer entre ces jeunes étudiants et ces artistes d'une dizaine d'années à peine plus âgés qu'eux. On a du mal à croire cette incompréhension de la différence entre demi-générations.
Ben, en fait, c'était un peu les vieux qui venaient. Ils se demandaient pourquoi, parce que c'était vraiment dans notre bande à nous. Et moi, j'étais une des plus jeunes. J'avais, je sais pas, 13 ans et demi, 14 ans. Ou 14 ans et demi. Enfin, ça dépend des mois dont on parle. Et ben, mon père et Higelin sont venus soutenir les grévistes, sont venus à la Sorbonne, sont ensuite allés dans les usines aussi, etc. Mais pour les jeunes, c'était c'est qui ces vieux-là ? Puis ils n'étaient pas encore connus vraiment. Donc voilà, ils étaient très copains, Higelin. Ils étaient rivaux aussi, vous voyez. Dans cette époque-là, ils étaient rivaux et amis en même temps. Enfin, c'était un peu tout mélangé, mais c'était un joyeux bordel, j'ai envie de dire. oui, bah, je les ai vus, bien sûr, dans les usines notamment, en grève, soutenir les grévistes.
En mai 68. Hein.
Oui, en mai 68.
Chanter pour défendre
défendre les grèves et soutenir les grévistes.
C'était sans doute des moments aussi intenses, sans doute, hein, sont des ces
années-là. Oui, c'était intense. Et puis moi, je me rappelle aussi d'un sitting boulevard Saint-Michel où je trouvais ça génial parce qu'il n'y avait pas du tout de violence, il n'y avait pas de heurts, il n'y avait pas de black blocs ou de choses comme aujourd'hui. Mmh. On voit beaucoup de violence quand même. Tout le monde était assis, on empêchait la circulation évidemment parce qu'on était tous assis. Et puis c'était flower power, quoi. C'était... C'était très, très doux, très, une révolution douce. Bon, après, il y a eu quand même les pavés et puis les barricades. Hein. Il n'y avait pas que ces sittings tout à fait pacifiques. Il y a eu de tout, mais ça a été, ça a été très important pour la société. Je ne connaissais pas tous les tenants, les aboutissants. J'ai parlé récemment avec David, avec qui j'ai conservé une amitié aussi, David Séchant, donc... il me disait qu'au moment où ça chauffait trop au quartier latin et tout, bah, ils ont un peu bougé de quartier pour pas non plus
être prendre des mauvais coups, quoi.
Voilà, exactement. C'était... Mais eux étaient un petit peu plus âgés que moi, donc c'était les grands quand même.
Georges Moustaki, Marche de Sacco et Vanzetti. Thank you.
seul dans la mort, mais par elle vous vaincrez. Maintenant, Nicolas et Pat, vous dormez au fond de nos cœurs. Vous étiez tout seul dans la mort, mais par elle vous vaincrez. Maintenant, Nicolas et Pat,
que c'est ce même regard d'adolescente à vous, de préadolescente, et ces différences générationnelles qui feront de, que vous étiez plutôt honteuse des cheveux hirsutes de votre papa lorsqu'il vous amenait à l'école, et voir des tenues excentriques de votre maman aussi, ah oui, Yannick oui. Varek.
Ça, c'était un peu avant, enfin, lycée Montaigne. Quand mon père m'accompagnait à l'époque au lycée Montaigne, quand il me prenait chez lui, c'était l'île Saint-Louis, il m'emmenait en moto. Et là, le casque n'était pas obligatoire. Et donc, effectivement, il avait les cheveux longs. Donc, avec le vent, ils étaient complètement hirsutes. Et je ne trouvais pas ça très joli d'abord. Et puis, je ne comprenais pas pourquoi, tout d'un coup, il se sentait obligé de m'accompagner. Alors, je savais prendre le bus. J'étais assez grande. J'avais mes copains. Je commençais à flirter. J'étais un peu une petite nana qui commençait à être une petite femme. Et tout d'un coup, mon père qui commence à me paterner un peu à retardement, quoi. C'était même à des moments, il avait un peu trop d'autorité. Je lui ai dit, écoute, l'autorité, c'est un peu tard, là. Il y a 68, un bas le pouvoir et tout. Alors arrête un peu de m'emmerder. Et puis, et là, je lui demandais, quand il voulait absolument m'emmener, au lieu de me laisser prendre le bus, moi, j'avais envie d'être indépendante. Et donc, déjà, ça me plaisait pas trop qu'il ait envie de m'emmener. Et d'autre part, je lui demandais de me laisser au coin de la rue pour pas que mes copains le voient. Et c'est qui ? Ah, c'est ton père. Parce qu'il était, à l'époque, il n'était que auteur, donc son visage n'était pas connu.
D'accord.
Même une fois, il m'avait ramené à la pension à Fontenay-sous-Bois, parce qu'avant d'être au lycée Montaigne, j'étais à la pension à Fontenay-sous-Bois, qui était régime militaire, là, parce que uniforme, bleu marine et tout, c'était pas rigolo. Et une fois, il m'a ramené là-bas, et puis la directrice a appelé ma mère en disant « Il y a un Uluberlu qui a ramené votre fille en moto ». Et ma mère, non, vous inquiétez pas, c'est son père, ok, d'accord. Alors moi, qu'est-ce que je fais avec tout ça ? Débrouille-toi.
Et comme elle pouvait venir avec cette tenue excentrique aussi, quoi.
Oui, en pension, elle venait une fois, je me rappelle, je revois la scène, elle vient avec une robe qu'elle avait dû faire elle-même au crochet violet, avec un gros ceinturon, comme c'est devenu la mode, mais elle était d'avant-garde, ma mère. Donc 3 ans après, on voyait que ça dans les journaux. Les petites nanas avec des gros ceinturons et des pulls en mohair. Et là, c'était pas du tout encore la mode. Et elle était habillée un peu courte. Et je me rappelle mes copines qui disaient « Oh, ta mère, monte ses genoux. On voit ses genoux. » Alors, ça se faisait pas. Alors, moi, j'étais contente quand c'était ma tante Yannick ou Armel aussi.
Qui venait en tailleur, un peu plus classique.
Normal, ou en pantalon pull, mais pas forcément guindé, mais au moins un peu plus classique, quoi.
C'est à cette période aussi que votre père, donc Georges Moustaki, écrit cette chanson à 17 ans, une chanson qui célébrait sans doute votre entrée dans la vie adulte. Son regard sur vous évoluait, c'est peut-être aussi pour ça qu'il souhaitait vous accompagner, qu'en fait, sa fille le lâchait.
Oui, tout à fait. Oui, mais moi je ne me rendais pas compte que c'est vrai que j'avais 17 ans à ce moment-là, mais je ne me rendais pas compte qu'elle m'était en quelque sorte dédiée, cette chanson. Je ne me rendais pas du tout compte, et puis je trouvais même que j'avais pas trop envie qu'elle me soit dédiée, parce qu'une femme, un enfant... qui découvre son corps, etc. J'avais pas trop envie qu'il se mêle de ça. Ça me regardait, c'était mon corps, mais c'était réservé pour mes potes à moi.
On s'en aperçoit quelques temps après, quoi.
C'est après, avec le recul, voilà. Oui.
17 ans, une femme, une enfant, qui ne sait rien encore et découvre son corps.
Georges Moustaki, 17 ans.
Que le soleil enivre et que la nuit. Des livres, 17 ans, un sourire innocent et le regard docile sous un rideau de cils. Mais une faim de loup et une soif de tout. 17 ans, dessin de satin blanc semble narguer le vent. De leur charme insolent, 17 ans,
et prendre encore le temps de refuser le monde organisé et faire à l'heure présente un aujourd'hui qui chante 17 ans et vivre à chaque instant ses caprices d'enfant, ses désirs exigeants. 17 ans, j'étais adolescent et je le suis encore en découvrant ton corps. Comme un fruit éclaté, comme un cri révolté, 17 ans, déjà 17 ans, tu n'as que 17 ans, mon amour, mon enfant.
Alors que vos parents donc font eux leur vie sentimentale amoureuse de leur côté, ils sont tous les deux séducteurs et artistes, leurs vies sont remplies un peu de fêtes, de conquêtes, de voyages, de rencontres, de sorties à n'en plus finir. Pierre Moustaki, vous disiez avoir de nombreuses belles-mères célèbres. Pouvons-nous en évoquer quelques-unes alors, dans ces périodes-là ?
Célèbres ou non, enfin peut-être, Franck, vous, ce qui vous intéresse, c'est la célébrité de mes belles-mères. Mais ce n'est pas les plus célèbres, forcément, qui m'ont le plus touchée. Il y a Edith Piaf, bien sûr, parce qu'elle a été ma belle-mère pendant un an, ce qui n'est pas beaucoup d'ailleurs, mais quand même. Et puis elle m'a couverte de cadeaux. Et ensuite, elle a beaucoup gâté d'ailleurs les enfants de Cerdan. Enfin, c'était une femme généreuse, hein. C'était quelqu'un comme ça. Ensuite, Jeanne Moreau, ça a été très furtif. Ça a été une liaison, je ne sais pas combien de temps, mais ça n'a pas duré, ça je sais. Catherine Le Forestier n'était pas connue du tout. Elle était choriste pour mon père et elle avait un très joli duo avant avec son frère, Maxime Le Forestier, Kat et Maxime. Mais une de mes belles-mères qui est beaucoup moins connue mais que j'aime vraiment beaucoup et dont je veux parler parce qu'elle, c'est vraiment une belle-mère qui a compté pour moi et pour mon père aussi, bien sûr, parce qu'elle a resté plusieurs années avec lui. C'est Enya Suchard, qu'on appelle aussi Enya Ziv, et qui est en fait une comédienne qui a eu beaucoup de second rôle avec Bourvil, avec Catherine Deneuve dans Les Grandes Gueules, dans le cinéma de papa, dans des grands rôles importants, mais toujours en second rôle. Donc elle n'a pas été connue du grand public tant que ça. Et ensuite elle s'est reconvertie, elle a chanté un petit peu aussi, notamment Le Temps de Vivre dans le film du même nom. Et ensuite, elle s'est reconvertie à faire des tapisseries pour des musées, des gigantesques œuvres picturales, où elle m'avait d'ailleurs engagée, parce que moi, je faisais un peu de couture. Et du coup, on s'est retrouvés en adulte. Enfin, moi, là, j'étais adulte. Et on s'entendait très bien. On s'aimait vraiment beaucoup avec Enya. Elle nous a quittés. Même, elle n'était plus avec mon père, mais elle était très, très gentille avec moi. Et puis, elle m'avait donné ce boulot, m'avait appris à faire ces tapisseries. Et même encore aujourd'hui, si j'avais envie d'en faire, je saurais le faire. Elle m'a vraiment initiée à ça.
Il y a eu Barbara aussi, hein, une des compagnes de
votre père. Oui, alors là, moi, je ne connais pas trop, parce que je ne savais même pas, j'ai appris un peu par... j'étais même étonnée, je me suis dit, bon, ben elle, on voit sur la vidéo qu'elle le mange des yeux, mais c'était une croqueuse d'homme, je crois. Et je ne l'ai jamais vue à la maison trop, enfin, elle a dû passer quand j'étais pas là, parce que moi, je n'étais pas là tout le temps. Elle aimait beaucoup les rocking chairs, donc je pense qu'elle s'est balancée sur les rocking chairs de mon père en bois qu'il avait dans sa pièce de musique. Mais j'ai pas de souvenir d'elle. Je l'ai vue, je me rappelle, dans des salles de spectacle. Là, je me rappelle d'elle avec mon père quand il chantait La Longue Dame Brune. La Dame Brune, là, je me rappelle très bien d'elle, mais pas d'une façon familière à la maison, non.
Votre maman aussi était donc, elle avait trouvé un autre compagnon, peut-être aussi
Oui, mais elle était très discrète, ma mère. Elle était après Higelin, elle a eu une grande aventure avec le leader des Enfants Terribles. C'est un groupe de chansons françaises qui était spécialisé, particulier. C'est lui qui a été le fondateur et l'auteur, compositeur de toutes les chansons. Et il faisait des contre-chants, c'était magnifique. Moi, j'étais très fan de leur groupe, j'allais les voir tout le temps et je jouais dans tous les petits cabarets de la capitale. Et c'était quelqu'un de vraiment extraordinaire.
les empreintes musicales.
C'est du côté de votre maman et de votre côté à vous aussi. Donc vous, c'est le début de vos conquêtes.
Oui.
De vos conquêtes, pardon.
Oui.
Donc vous avez diverses expériences riches.
Moi, j'ai rencontré très tôt le futur père de ma fille, puisque j'avais 15 ans et demi, donc c'est très très jeune. Je l'ai rencontré chez Georges Brassens.
Vous le rencontrez dans le moulin des Yvelines, hein, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Alors, vous l'avez
à Crépierre, exactement.
Alors,
Crépierre.
D'accord.
Et donc, en fait, ma mère avait une boutique d'artisanat dans le quartier latin, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, et elle travaillait avec un couple, Daniel et Philippe, qui faisaient des bijoux pour la boutique de ma mère, qui lui gardait la boutique de temps en temps. Et ils habitaient donc temporairement dans une dépendance de la maison de Georges Brassens, parce que Marcillac, donc Philippe, accompagnait Bobby Lapointe. Il était aussi musicien, il faisait plein de choses.
D'accord, ce créatif donc,
voilà,
d'objets
donc,
là.
Ils avaient été hébergés par Georges Brassens dans une dépendance. Et puis, ma mère ne savait pas trop où m'envoyer en vacances de Pâques cette année-là. Et ils ont dit, si elle veut, elle peut venir à Crépierre. Si elle se débrouille un peu pour la bouffe, elle n'a qu'à venir. Et moi, là, j'avais demandé si je pouvais venir avec ma meilleure amie, donc Dominique. Et puis, on était allés. Et là, j'ai rencontré le père de ma fille.
Donc, on est dans quelle année, là ?
Le futur père de ma fille. Là, c'est 70, parce qu'après, on a été à l'île de Wight, c'était 70. Oui.
Ce début des années 70, avec Gilda, lui, qu'est-ce qu'il fait du...
Oui, il faisait des bijoux aussi pour ma mère.
D'accord, il habitait une des dépendances...
C'est ma mère qui lui avait appris.
Une
en fait, il était logé chez eux provisoirement. Non, il était logé chez eux, parce que sa mère habitait à Asnières, et donc il avait rencontré Daniel et Philippe en allant faire des bijoux qu'il laissait en dépôt à la boutique de ma mère. Et puis il lui avait dit, si tu veux, tu peux venir habiter, il y a de la place. C'était une grande maison avec un très beau jardin, Crépierre, c'était magnifique. On croisait des gens incroyables, des artistes connus et des non-connus, mais c'était assez rock'n'roll dans ce lieu-là.
Ah ouais.
Mais Brassens, lui, il avait une autre maison, et lui, on le voyait pas trop. Il était assez secret et réservé. Moi, je l'ai croisé de loin, mais je l'ai pas connu de près. Ma mère l'a bien connu, mais moi, je l'ai pas connu.
Mais c'était sa propriété.
Oui, c'était sa propriété.
Donc il accordait des lieux, des espaces.
En fait, voilà, c'était une dépendance, une belle dépendance. Et donc il l'avait prêté à Daniel et Philippe pour le temps. Comme ça, ils entretenaient en même temps la maison. Et puis Gilda était un ami à eux qui vivait là. Mais il y avait toujours des gens qui habitaient là parce que c'était grand. Donc il y a un tel qui va venir passer 2 mois parce qu'il a un boulot là. Enfin, c'était un peu communautaire. Avant l'heure.
Le début de ces grandes années effectivement, de communauté.
Voilà.
Abordé la fin de l'été 1970 où vous partez donc avec Gilda, ce jeune amoureux. Donc dans sa famille, ses familles ont une maison à Christchurch, juste en face de l'île de Wight.
Oui, c'est ça.
Et vous partez, alors il y a aussi cette anecdote que votre papa vous proposait de partir avec le chanteur Donovan dans le même avion, je crois, hein, c'est ça, pour participer.
Dans son avion particulier.
Dans son avion particulier de Donovan pour partir à ce festival.
Ce que j'adorais, c'est un de mes premiers disques en plus, vinyle. Et on dit Christchurch, en fait.
Christchurch.
Et donc, on avait décidé d'aller à l'île de Wight en partant en ferry du Havre. Et puis c'était prévu, et mon père me dit, je vais au festival de l'île de Wight dans l'avion privé de Donovan, tu veux venir avec moi? Et déjà il me demandait à moi, alors qu'il ne savait pas vraiment que j'avais déjà un compagnon un petit peu sérieux. Et donc je lui ai dit, non, je pars avec mon copain en ferry, et après on va dans sa famille à Christchurch, donc juste à côté. Et donc il était un peu vexé que je refuse l'avion particulier de Donovan. Mais ça a toujours été un petit peu comme ça avec mon père. Il ne s'occupait pas trop de moi, il ne me calculait pas. Puis du coup, moi je faisais ma vie et puis j'évoluais. Puis d'un coup il disait, ça peut être marrant de l'emmener. Non, en fait, c'est pas mon moment à moi. Là, je suis avec un compagnon où je fais un peu ma vie comme j'ai envie de la faire. Et,
chacun vivait son...
Et puis j'étais le contraire d'une fille à papa, si vous avez compris aussi. Voilà, j'étais pas très obéissante en fait.
Et moi, on est assez intéressé par tout ce qui concerne la musique. Et du coup, dans cette programmation, vous vous souvenez un peu de ce festival de l'île de White?
Oui, bien sûr. Voilà, j'avais 15 ans et demi.
Je vais citer les artistes quand même de l'affiche. Donovan, Jimi Hendrix, Miles Davis, Joe Cocker, les Who, Leonard Cohen, Joan Baez et les Doors.
Ouais.
Tout ça.
Ouais.
Vous les avez à peu près vus en concert
Oui. Bah, c'était différent. Moi, j'aime beaucoup le festival des vieilles charrues à Carhaix, en Bretagne. Et je trouvais que c'était un petit peu mieux organisé, dans le sens où il y avait un concert qui finissait, un autre commençait. Là, j'ai l'impression, ou alors c'était mon jeune âge qui n'arrivait pas à ingurgiter toutes ces musiques, mais c'était un peu plus bordélique, j'ai l'impression. Et il y avait du son tout le temps, mais on ne pouvait pas tout écouter, parce qu'en fait, fallait choisir, en fait. Et aussi, il fallait dormir de temps en temps, donc on loupait.
Et puis, il fallait être amoureuse aussi.
C'était au tout début de votre
aventure avec Gilda.
Oui, c'est le tout début.
Mais vous ne gardez pas vraiment de souvenirs particuliers d'un des concerts qui aurait marqué de tous ces artistes-là?
Non, c'était une globalité, comme ça, d'ambiance incroyable. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je parlais de Carhaix, parce que quand on a été... on avait ce café-concert avec Patrick Ozouf, mon mari, à Saint-Servant, donc le mari Morgane. Et un été, on a eu envie d'aller à Carhaix. Et donc, on a fermé 3-4 jours. Tout le monde nous a dit, quoi, vous fermez en pleine saison? Bah oui, on a envie d'aller écouter de la musique. Et puis comme ça, on aura plein de choses à vous raconter. Et là, j'ai ressenti ce vent de liberté aussi, où tout est possible. J'ai adoré. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est bien. On est retourné d'autres années après.
Les empreintes musicales.
Quelques années donc plus tard, pour conclure cette deuxième partie d'entretien avec vous, Pia Moustaki,
oui.
En 1974, votre fille Gaëlan naît alors que vous avez 20 ans.
Oui, 19 exactement.
19. Et est-ce que, pareil, la même question que j'ai pu poser par rapport à vos parents qui étaient jeunes, que vous aussi vous sentiez prête à accueillir, à éduquer ce nouveau-né?
Alors, je vais vous faire un petit peu la même réponse que pour mes parents. On n'est jamais vraiment très préparé. Il n'y a pas d'école pour être parent, mais on a tellement envie de bien faire et d'accompagner cette petite fille adorable qu'on fait de son mieux. Et puis tout se passe bien, finalement.
Georges Moustaki, danse.
Danse tant que tu peux danser, danse autour de la terre. Libre comme un poisson dans l'eau, comme un oiseau dans l'air. Léger comme le vent qui danse dans les arbres, ou le mât d'un bateau qui danse sous la vague. Danse tant que tu peux danser sur les pavés, sur l'air. Sur une table de bistrot, à l'ombre des tavernes. Viens, laisse-toi porter par toutes les musiques qui sortent d'un piano ou d'un vieux tourne-disque. Danse tant que tu peux danser, danse autour de la terre. Danse dans les bras de Marco ou Julie de Nanterre. Danse pour retrouver l'amour et la folie. Danse pour éblouir ton âme qui s'ennuie. Danse tant que tu peux danser, danse autour de la terre. Pour ne plus porter sur ton dos la mort et la misère. Et tu verras jaillir des sources souterraines et des torrents de joie qui coulent dans tes veines. Danse tant que tu peux danser, danse autour de la terre.
Merci à Pia Moustaki, notre invité du jour, pour cette entrevue. Merci à Patrick Ozouf et à Santina Calderaro pour l'organisation. On se donne rendez-vous pour ce même créneau horaire la semaine prochaine. Les empreintes musicales, l'émission, c'est fini pour aujourd'hui. Bise, bisette, bisous. Ciao, kenavo, à bientôt.
sur les murs un poème.
Danse autant que tu peux danser, danse autour de la terre. Danse autant que tu peux danser, viens le bas.